A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Hommage à un grand révolutionnaire haïtien décédé à 92 ans le 29 octobre dernier. Alors pour partager avec vous sa passion haïtienne, nous rediffusons un entretien réalisé avec lui dans le fauteuil dans sol majeur il y a tout juste 9 ans. Je le décrivais à l'époque avec des yeux rieurs où se reflétaient les poissons de l'enfance. Et puis avec cette fameuse casquette vissée sur son regard de franc-tireur, voilà. C'était l'image bonhomme que promenait Gérald Blancourt sur les trottoirs du monde. Des trottoirs qui lui ont fait vivre une jeunesse rebelle en Haïti, puisque c'est l'un des héros des 5 glorieuses de 1946. Et en 70 ans d'exil, il est resté parisien, poète, peintre, photographe, reporter, très engagé, voire séquestré par la douleur du monde. Son travail reflète un demi-siècle de mémoire pour dire notre planète. Alors, question sans réponse probablement, sur quelle planète en sol majeur Gérald Blancourt a-t-il vécu ?
J'ai mal au monde qui meurt. J'ai soif et bois mes pleurs humiliées, dégorgées, disparates. J'ai mal aux tripes de ma planète. J'ai l'oubli de mon chapelet d'enfant. J'ai la mémoire de celui des bombes à vomir en mon humanité ravagée. J'ai aux quêtes d'espérance vaines, au fracas des armes, mes raidis de ruines, luisantes de larmes, gluantes de sang, fleurs fendues d'acier sur mes volcans éteints, bourgeonnant de râles. J'ai mal à mon baiser, j'ai mal à mes frères africains, sud-américains, à ceux de mon espèce, aux humbles violets, à ceux d'Irak, de Malaisie, de Papouasie, à ceux de Singapour, du Nicaragua, de Grenade, de Panama, de Cuba, d'Haïti, de Saint-Domingue, de Guadeloupe et de Martinique. J'ai mal aux métèques que je suis, j'ai mal aux battus, volés, séquestrés, écrasés, pulvérisés, brûlés. J'ai mal au monde qui s'abîme, brûle, se consume. J'ai mal au toxin des injustices milliardaires, à la faune, au pélican pétrole. J'ai mal à ma gorge nouée de vipères yankees. J'ai mal à ma tendresse, au bonheur, à la neige qui tombe sur les tombes et sur Paris en ce 6 février 1991. J'ai mal à la poésie sacrifiée de l'espèce humaine. J'ai mal aux étoiles, au labeur, à la culture. J'ai mal à la littérature désuète. J'ai mal au regard d'amour. J'ai mal à mes habitudes de vivre. J'ai mal à l'espoir. J'ai mal au monde que j'habite.
Bonjour Gérald Blancourt.
Bonjour.
Merci pour la lecture de ce poème donc intitulé « J'ai mal au monde » que vous avez écrit en 1991 au moment de la guerre du Golfe. Alors je crains bien que toute une émission de radio ne suffise pas pour dire votre travail de photographe reporter, de peintre et puis de poète aussi. Mais vous m'inspirez quand même une première question, vous qui traitez toujours de l'actualité. Est-ce que poésie et information, ça peut faire forcément bon ménage ?
Je crois que c'est obligé et ça fait partie l'un de l'autre. Quand on est honnête, quand on est engagé dans ce métier d'informer, de dire, de transmettre, et quand on est, comme je l'ai été, et reporter, on a les yeux ouverts sur le monde, on regarde ce qui se passe, on voit les visages des gens, on voit les cicatrices, les blessures, les sourires, et quand on veut transmettre, eh bien, je crois que la seule façon de faire, c'est de le dire, et le fait même de le dire, c'est déjà de la poésie.
Alors j'ai regardé le portrait que vous consacre Mehdi Lalaoui. Il signe un joli portrait du photographe que vous êtes, intitulé Gérald Blancourt, un regard haïtien. Et justement, je me suis interrogée sur ce terme de regard haïtien, vous qui êtes frère de l'humanité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un regard haïtien, dans le cas d'un photographe comme vous qui zoome autant sur les mineurs du Nord des années 60 que sur les femmes soldats du Front Polisario ?
Bien, vous savez, je suis né en Haïti, dans un petit village qui s'appelle Bénet, et non loin de Jacmel. Et j'ai grandi, j'ai vécu les cyclones, j'ai vécu les espèces de révoltes, de révolutions, les têtes coupées, fichées sur les pics qui se baladaient au-dessus des foules. Et toute ma jeunesse, toute ma culture, le bruit des tambours qui descendaient des montagnes, et la nourriture, la façon de parler, notre créole et notre français créole. Et j'y ai pris mes racines.
Alors vous le savez sans doute, dans cette émission sur la double culture, il y a des questions en sol majeur auxquelles vous allez être soumis, Gérald Bloncourt. Et puis il y a des chansons, vos chansons à vous. Et la première que vous avez choisie, c'est la Dessalinienne. Vous allez nous la présenter. Je me disais que vous n'y allez pas de main morte. Question symbole.
La Dessalinienne. Dessaline a été un des dirigeants des esclaves qui travaillent avec Toussaint Louverture à la libération, à la fin de l'esclavage en Haïti, et ça a été la première défaite de Napoléon. Et donc le chant national haïtien, ça porte son nom, la Dessalinienne. C'est le chant national qui fait vibrer le cœur de tous les Haïtiens à travers le monde.
Et qui vous fait vibrer, vous, encore.
Et qui me fait vibrer, parce que ça a bercé mon enfance, ça a bercé mes espérances. Et la musique, je vous ai fait passer cette musique, mais il n'y a pas, les paroles n'y sont pas, mais je pourrais vous les fredonner si vous voulez.
Mais vous n'y couperez pas, Gérald Bloncourt. Alors un chant national sans paroles, c'est un peu dommage, hein, c'est plus du tout un chant national. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va la remettre et puis vous allez nous la chanter avec les paroles, c'est parti.
Si vous voulez.
Le chant national, donc la Dessalinienne.
De m'en rappeler totalement, mais enfin je vais essayer.
C'est pardonné d'avance.
Les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres.
En sol majeur, donc, au garde à vous de cette Dessalinienne, chère au cœur de notre invité Gérald Bloncourt, superbe interprète, les mots intacts.
Ah, j'ai la voix cassée aujourd'hui.
Non, faites pas le coquet. Gérald Bloncourt, né en Haïti, 60 ans d'exil plus tard, il est tranquillement installé dans le fauteuil d'en sol majeur.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Mes ancêtres, mon père est un Guadeloupéen qui a fait la guerre de 14-18 en France et qui a connu ma mère en France. Ils sont partis en Haïti, retrouver un oncle qui y habitait déjà. Donc ma famille est originaire de Guadeloupe. Et plus loin en avant, il y a le fameux oncle Melville Bloncourt.
Un héros dans la famille.
Et qui était un des dirigeants de la Commune de Paris, condamné à mort par tiers, et qui a été exilé en Suisse, et qui est revenu de Guadeloupe, député de la Guadeloupe à Paris. C'était un grand intellectuel qui a laissé des livres, d'ailleurs sur les faux noms, mais enfin voilà. Enfin, grosso modo, voilà d'où je descends.
C'était dans les gènes déjà, ouais. Cet esprit révolutionnaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de photographier votre maman, Gérald Bloncourt, mais comment vous nous la décririez ?
Ma mère était d'origine italienne, son père et sa mère étaient italiens. Et c'est une petite femme brune avec d'immenses cheveux qui arrivaient presque jusqu'au talon quand on était gamin. Et elle était toujours très sérieuse, très laïque et républicaine. Voilà ce que je peux dire d'elle.
Un papa qui vous a peut-être inspiré une plume poétique. Vous écrivez de lui, je me souviens de lui lorsqu'il partait à la recherche des trésors enfouis durant la guerre de l'indépendance en 1804 et qu'il n'a jamais trouvé.
Eh bien oui, parce que quand la révolution a été faite en Haïti, les colons et français se sont sauvés Et ils ont enterré des mâles avec de l'or, en fait, c'est tout ce qu'ils avaient, qu'ils ont pu sauvegarder comme ça, ils les ont enfouis. Et mon père, et comme tous les autres, comme tous ses copains, ils étaient toujours à la recherche parce que les légendes couraient. On disait là, il doit y avoir un trésor sous tel pied de manguier, etc. Et ils partaient, ils fouillaient la terre, ils cherchaient et le trésor qu'il n'a jamais trouvé d'ailleurs.
Alors, pour prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à l'époque et à la situation, qu'est-ce que vous diriez sur le climat entre les populations noires et blanches à l'époque ?
Ah bien, la masse des Haïtiens descendent des esclaves africains. Vous savez que plus de 30 ethnies africaines se sont croisées en Haïti. Et donc, les enfants issus des colons blancs et des femmes noires et des mulâtres, on les appelait les mulâtres, comme c'était des enfants des colons, les a affranchis, ils étaient affranchis, eux avaient accès à l'instruction, à l'école, au petit commerce, etc. Et les esclaves et les affranchis se sont unis et contre cette colonisation sauvage. Et Napoléon est à cette époque au pouvoir en France, et avec Toussaint Louverture qui a été le héros de la révolution haïtienne, ça a été la première défaite de Napoléon et ça a été la première victoire d'un pays où il y avait des esclaves. Donc l'indépendance a été proclamée en 1804, et après la coexistence a été difficile. D'abord il y a eu le massacre de tous les colons survivants qui se sont sauvés, mais beaucoup ont été massacrés. Donc les affranchis qui étaient mulâtres et les noirs, et les affranchis étaient les seuls à savoir lire et écrire, donc ils se sont rapidement emparés du pouvoir, et ils ont commencé à exploiter leurs frères noirs. Donc il y a eu pendant plus de 100 ans, et il y a eu des luttes entre la couche de la bourgeoisie mulâtre et la masse des paysans qui étaient en majorité noire.
C'est un vrai cours d'histoire.
Oui.
Question naïve, est-ce que vous vous sentiez un mélange de cette histoire ?
Ah ben bien sûr, je l'étais obligatoirement, parce que les petits noirs qui étaient mes copains avec lesquels je jouais, eh ben ils m'appelaient petit blanc. Vous voyez, bon, mais enfin, ils m'aimaient bien, et moi aussi, d'ailleurs, on s'aimait bien. Mes parents n'étaient pas du tout des racistes, alors mon père était mulâtre. Donc, on a vécu, en ce qui nous concerne, en très, très bonne harmonie. Mais la bourgeoisie haïtienne mulâtre méprisait la majorité des pauvres gens qui étaient noirs. Il y a eu du mépris et puis une exploitation éhontée, d'ailleurs, que j'ai dénoncée dans quelques livres.
Quelle est la carte géographique de votre enfance ?
Haïti, on n'est pas très loin de Cuba. On est dans ce qu'on appelle les Grandes Antilles. Il y a Cuba d'un côté, un peu plus loin, il y a Porto Rico. Et puis encore plus bas, il y a la Martinique, la Guadeloupe, les Petites Antilles.
Alors vous êtes né en 1926, Gérald Bloncourt, où exactement en Haïti ?
Je suis né à Bénet, c'est un petit village, et pas loin de Jacmel. Et Jacmel est une ville du sud, qui était une des belles villes du pays à l'époque.
Et vos premiers souvenirs, vous dites qu'ils sont d'une rare violence entre le paludisme et puis les têtes qui tombent, pour reprendre votre image de tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Il y a eu. J'avais à peine un an quand un cyclone s'est abattu sur Bénet. On a été emporté par ce cyclone, on a été sauvé parce que mon père était très solide, très fort, nous a tenus, ma mère et moi, et mes deux autres frères, maman Dédé, qui était notre nourrice haïtienne. Et après, nous avons habité Jacmel. Et Jacmel, quand j'étais gamin, je me rappelle de certains mouvements de révolte. Et je me rappelle qu'un jour, on n'avait pas le droit de sortir. J'étais dans la chambre, au premier étage, et la foule manifestait à l'extérieur, et j'ai vu passer une tête coupé, fiché sur une pique, et qui avait pu passer dans la houle de la foule. Elle passait sous mes yeux, et ma maman m'a aidé à fermer vite les volets pour que je ne voie pas ça, mais j'ai eu le temps de la voir. Et j'ai vécu comme ça dans beaucoup de violence. Après, il y a eu le cyclone de 1936.
Qui vous a amené à Port-au-Prince.
Oui, voilà.
D'accord. Alors, autre date clé de votre parcours, Gérald Bloncourt, on va arriver très vite à 1946, le bel âge paraît-il, mais 20 ans est-il le bel âge réellement ? Puisque c'est l'âge où vous êtes expulsé du pays. Alors, vous allez nous raconter les circonstances historiques de cette expulsion.
Eh bien, c'était pendant la Grande Guerre, la guerre mondiale. Mon frère était venu en France en 1938 faire des études. Il avait une bourse. Et il a même été fusillé au Mont Valérien à l'âge de 21 ans. Et en 1942, il fait partie des premiers héros de la résistance française. Et mon père était guadeloupéen, avait fait la guerre de 14-18. Donc on était tous avec la France contre l'Allemagne. On savait que l'Allemagne, c'était quand même... On apprenait que c'était des nazis, enfin bon... Mais parallèlement, moi, je découvrais autour de moi toutes ces injustices sociales et je pensais qu'il fallait aussi faire quelque chose pour que ça change, qu'on ait une société plus juste. Donc c'est assez confus, assez mélangé dans ma tête à l'époque. Vous savez, je n'avais que 13 ou 14 ans. J'ai assisté à une première manifestation le jour où les Dominicains, enfin la police dominicaine, l'armée dominicaine a décapité, et je crois, plus de 15 000 Haïtiens, les coupeurs de canne à sucre. Ce sont des événements qui bouleversent. Quand on est jeune, on voulait changer les choses. Et avec mes copains, et nous avions décidé de renverser ce gouvernement qui était une dictature. Nous avons préparé cette révolution qui a éclaté en 1946. Le 7 janvier 1946, il y a eu les 5 glorieuses. Pendant 5 jours, nous avons lutté contre les forces du gouvernement. On a réussi à renverser ce gouvernement. Mais quelques temps après, il y a eu, et j'avais 19 ans à l'époque, et il y avait aussi le passage d'André Breton, d'Aimé Césaire, qui a mené...
Eh oui.
Et Césaire, évidemment, c'est un noir tellement cultivé que tout le monde était très fier de voir un type avec cette prestance. Donc les jeunes ont commencé à s'intéresser à la littérature, à la culture, ont commencé vraiment à lire et à vouloir et comprendre et à savoir tout ce qui se passait. Ensuite, Breton a été invité et Breton est arrivé au moment où nous préparions l'insurrection. Et ensuite...
Et au terme de cette insurrection, finalement, vous arrivez, votre carteron, comme on l'appelle, arrive à renverser le dictateur Élie Lescot, et pourtant ça tourne mal pour vous.
Eh bien, parce qu'il y a eu la contre-révolution, une jeune militaire s'est emparée du pouvoir, aidée, soutenue par les Américains, et à ce moment, bon, j'étais arrêté d'ailleurs à plusieurs reprises, mais en fait j'étais arrêté, expulsé de mon pays, et à travers mon voyage qui m'a conduit de République dominicaine en Martinique, je suis arrivé en France en 1946.
Alors quand vous arrivez... en terre des droits de l'homme, comme on dit, du côté du Havre,
oui,
je crois.
Oui, j'ai débarqué au Havre, oui.
Quelles sont vos premières impressions, Gérald Blanco, hein?
Ah, ben, je suis arrivé au Havre. Pour moi, la France, c'était le pays de la culture, le pays des grands écrivains, extraordinaire. Mon premier contact, c'était un douanier qui a accepté de signer. Vous savez, il avait la craie à cette époque. Il faisait une petite croix sur les valises pour passer. Et je lui ai offert... on m'avait dit, tu offres une cigarette et puis il va te signer ça tranquillement. J'ai lui offert une cigarette, il a mis la main sur le paquet, le paquet a disparu, c'est un prestidigitateur. Et donc c'est mon premier contact avec la France. Je me suis dit, c'est ça la France.
La corruption.
Et la corruption. Et puis dans la nuit, j'étais avec des copains que j'avais rencontrés, des Martiniquais, des Guadeloupéens qui étaient étudiants, qui venaient faire leurs études en France. Le Havre était en ruine et il y avait des prostituées. Et c'est là que j'ai découvert ces prostituées comme ça. Je me suis dit, pas possible, un pays comme la France, bon, on était un peu scandalisés.
Donc on va refermer cette première partie dans Sol majeur avec le drapeau rouge. Pourquoi vous l'avez choisi ce chant révolutionnaire, Gérald Blanco?
Bien parce que ça m'a rappelé un peu mon arrivée en France, quand, dans les manifestations. Et je l'ai entendu chanter à plusieurs reprises. Et ce sont des chants de l'époque, un peu naïfs par certains côtés. Mais quand même, qui montre cette espèce d'espoir, d'espérance, de changement social que j'ai toujours dans mon cœur d'ailleurs. Encore aujourd'hui, je pense que la société devrait être différente.
On l'écoute, ce drapeau rouge.
Du sang partout, partout des larmes, toujours souffrir quel triste sort. Mais nous prendrons un jour nos armes, soyons. Unis et forts, soyons tous prêts, unis et forts. Tous debout, il est temps, en avant. Quittons les plaines de misère, l'horizon est déjà tout ensemble. L'aube se lève, mes frères, frères, suivez.
Du sang des innocents. La mer humaine crie et gronde, plus rien ne lui résistera. Mais sur les ruines du vieux monde, on piochera, on bâtira.
Hommage à Justin Bailly, créateur de ce chant révolutionnaire, Le Drapeau Rouge, et qui fait partie sur RFI du programme en sol majeur de notre invité, qui a rencontré Charlie, Jean, Georges et André, plus connus sous le nom de Chaplin, Cocteau, Brassens et Breton. Notre invité, un jeune homme de 83 ans au moment de cette rencontre en sol majeur en 2009, s'appelle Gérald, comme Bloncourt. Tout à l'heure, il nous racontait 1946, année où il fut l'un des leaders de la révolution des Cinq Glorieuses en Haïti, où il est né, avant d'en être expulsé. Et c'est donc en tant que chasseur d'images qu'il est revenu par la fenêtre, si j'ose dire, nous parler du monde, le monde des prolos, des bidonvilles, des grévistes, des survivants aussi de certaines catastrophes, avec un zoom tout particulier sur tout ce qui concerne les luttes pour les décolonisations, mais aussi les luttes populaires, syndicales et ouvrières. Et d'ailleurs, j'ai regardé Gérald Bloncourt, vous avez été membre du Parti communiste français dès 1949. Vous avez travaillé au journal L'Humanité, qui vous a envoyé assez rapidement sur tous les conflits. Et je me disais que c'était finalement dans la logique de votre acte premier de rébellion. Vous poursuiviez un peu votre credo politique, vous qu'on avait privé de la révolution.
Bien, quand je suis arrivé en France, nous étions communistes. Bon, sans savoir, par la suite, je me suis dit, sans savoir exactement de quoi il s'agissait à l'époque. Mais enfin, nous étions communistes, et j'étais donc communiste. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donné mon adhésion au Parti communiste. D'ailleurs, je me suis d'abord occupé de quelques réunions avec des camarades haïtiens qui étaient arrivés comme moi en Europe. Et j'ai donné mon adhésion en 1948. Même un peu avant, au Parti communiste. Et j'étais donc militant. Et à l'époque, j'ai préparé le professorat de dessin de l'État de la ville de Paris, la Grande Chaumière, le 80 Montparnasse, etc. Mais il fallait manger. Voilà. Donc j'ai trouvé un job dans une boîte qui s'appelait Pompezoin, les éditions photographiques universitaires. Et on travaillait tout de suite après Nadar. On a succédé à Nadar avec la grosse chambre 1824, les plaques à verre, la poire, le voile. Et j'ai donc appris mon métier sur le tas. Et comme j'étais militant communiste, un jour j'ai été convoqué par les organismes du comité central. Et on m'a annoncé que je rentrais comme reporter photographe à l'Humanité. Mais ça n'avait rien à voir. Comme j'ai dit, la photographie ne s'écrit pas avec un grand P. Il y a toutes les photographies possibles. Mais le journalisme, le photojournaliste, je ne connaissais pas. On m'a dit, il n'y a pas de problème. Et quand la révolution russe s'est faite, Popov, il a pris, on lui a dirigé la banque. Il avait son revolver. Tu rentres et tu vas être reporter. Donc j'ai dit d'accord. Et on m'envoyait faire le sport. Et on m'envoyait au Veldiv photographier les matchs de boxe. Mais moi, j'étais très mauvais photographe de boxe parce que je regardais les types se taper dans la gueule et j'oubliais d'appuyer sur le bouton. Et un jour, par hasard, c'est un match de boxe extraordinaire, Percy Bassett et Réfam Champ. Et par hasard, j'ai appuyé sur le bouton au bon moment et j'ai une photo extraordinaire. Et après, on disait, ça, c'est le grand photographe de sport. Mais j'étais nul comme tout. Et comme ça ne m'intéressait pas, absolument pas, j'ai demandé à rejoindre le Front du Travail, où il y avait un vieux communiste qui s'appelait Octave Rabaté, je me rappelle de son nom, qui dirigeait ce service. Et il s'occupait, il suivait les grèves et tout ça, c'est ce que je voulais faire. Et moi, je voulais être gros-mère, vous savez, le graveur gros-mère. Je voulais être gros-mère avec mes photos, photographier ces gueules de travailleurs, ces choses dans le style gros-mère. J'avais ça, parce que j'avais une culture, disons, un peu artistique.
Ouais.
Et donc, j'ai
parce que vous vous sentiez aussi des petits? Des gens du peuple aussi ?
Et moi, j'étais avec les travailleurs. J'étais vraiment... J'ai pris parti. Je ne suis pas objectif, j'ai pris parti. Je me suis engagé directement. Et donc, j'ai suivi ces gens dans les grèves. Je buvais leur vin, je mangeais leur pain. Et j'ai découvert comme ça ces hommes et ces femmes. Et ce qu'on appelait la classe ouvrière.
Et vous n'avez pas photographié que la classe ouvrière, Gérald Blancourt, vous avez photographié aussi les amoureux des bancs publics. Attendez, vous vous souvenez avoir photographié les amoureux des bancs publics ? C'est d'ailleurs votre côté Doisneau et Brassens mélangés, ça ?
Eh bien, je suis de la même époque. Nous avons été d'ailleurs ensemble avec Doisneau et Cartier-Bresson et Pic et Villironis. Nous avons été fondateurs de la NJRPC, l'Association nationale des journalistes et photographes. Donc c'était l'époque un peu quand même. Mais enfin, je ne suis pas Doisneau. Avec ce génie qu'il a, des belles photos de Paris qu'il a faites, moi, c'est tout à fait différent. Je ne vois pas les mêmes choses. Ouais. Et mon appareil ne sait pas voir les mêmes choses que lui. Moi, j'ai surtout vu et les grèves. J'ai photographié aussi des amoureux, bien sûr. Mais
et vous avez croisé Brassens, alors ?
Alors, Brassens, oui, je l'ai rencontré chez Catherine Sauvage avec Jean-Pierre Chabrol qui m'y a amené. J'ai rencontré Brassens chez Catherine Sauvage. Et là, c'était au moins la mauvaise réputation.
Ouais.
Et alors là, j'ai rencontré plusieurs fois, évidemment.
Et il ne se souvenait pas du tout de votre nom, hein, jamais.
Non, il m'appelait Révolution.
Vous savez quoi ? Vous avez demandé qu'on écoute Brassens, vous n'avez qu'un mot à dire, et puis Brassens démarre.
D'accord.
On y va ?
Je veux bien.
Ah ouais. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire ? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Georges Brassens sur RFI et dans l'objectif de notre invité en sol majeur, Gérald Blancourt, un Haïtien en exil qui exalte son amour du pays natal grâce à la poésie et à la photographie.
Prendre racine, ça signifie quoi pour vous ?
Prendre racine, et c'est être, c'est avoir tété et le lait du pays, quoi.
Ouais. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un Européen avec les fenêtres grandement ouvertes sur le large ?
Non, je crois que je suis européanisé par force majeure. Mais en fait, je suis où je vis, je me bats où je suis, avec les gens qui veulent se battre et qui veulent changer les choses.
Vos racines sont internationales ?
Oui, je suis un citoyen du monde, de toute façon. Mais j'ai toujours ce petit pays tellement dans les tripes, quoi.
Ouais. Alors vous l'avez retrouvé très tardivement, ce petit pays, hein, en 1986, à 60 ans. C'était comment ces retrouvailles ?
Enfin, il y a des tas de choses qui ont changé, bien sûr. La ville est devenue un immense bidonville, je parle de la capitale. Et la misère a centuplé. Mais c'est toujours... vous savez, ma première arrivée, et les copains sont venus me chercher à l'aéroport, et j'ai demandé tout de suite d'aller sur le Champ de Mars, où j'avais habité avant de partir d'Haïti, dans une maison qui était juste à l'angle d'une petite ruelle qui s'appelle la ruelle Piquant, qui débouche sur le Champ de Mars. Et quand je suis arrivé là, il y avait une sorte de petit égout, je me suis penché au-dessus, et j'ai respiré, les copains m'ont dit « Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Je retrouve les odeurs du pays. » Et j'ai redécouvert.
Vous aviez besoin de ça.
Ah oui, j'avais besoin de ça. C'est fantastique comment la mémoire, les goûts qui reviennent, des choses que je n'avais pas mangées 60 ans avant, et j'étais invité chez des amis, tout ça. Et à l'instant, ça pénètre dans la bouche, les goûts reviennent avec les bruits de la vie qu'on a vécue à ce moment-là. C'est fantastique. Mais j'ai quand même retrouvé... Et le langage, le parler. Alors, la langue créole, c'est fantastique, a évolué. Il y avait des tas de mots nouveaux, mais que j'ai rapidement réintégrés. Mais il y avait des choses, mais c'était quand même ma langue, et j'avais gardé ma langue. Je pouvais quand même me faire comprendre.
Donc une petite distance, et en même temps le sentiment d'être dans les Charentaises, quoi.
Absolument.
Cela dit, c'est par le biais du militantisme que vous vous êtes enraciné dans ce pays, même à distance. Vous êtes depuis 1998 le fondateur et secrétaire général du Comité pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie en Haïti, plus connu sous le nom du Comité pour juger Duvalier. Donc vous avez toujours été actif, même à distance.
Oui, je pense, oui. Enfin, j'ai cherché à faire ce que je pouvais.
Est-ce que Bébé Doc a été inquiété depuis la création de ce comité ?
Eh bien, oui, nous l'avons amené jusqu'au tribunal. Seulement, je pense que le gouvernement français... et ne veut pas de procès Duvalier, parce qu'il est arrivé avec 850 millions de dollars. Et au cours d'une conférence de presse que j'ai faite à Saint-Méry, en 81, où je participais à une grève de la faim, j'étais le porte-parole de ce comité de grévistes, et j'avais dit aux journalistes qui étaient présents, vous savez combien... J'avais trouvé 800 millions de dollars avec mes copains, mais deux journalistes américains avaient annoncé 850 millions de dollars. J'ai dit, vous savez ce que ça représente ? À raison de 5000 dollars par mois, la paye nominale du président de la République, il aurait fallu qu'il ait commencé à dépenser sa fortune avant la naissance du Christ. Et on peut peut-être même remonter jusqu'aux guerres helléniques, et ça avait fait rire tout le monde, malgré que la situation était dramatique. Et ça a été publié, je crois, dans tous les pays du monde, cette phrase-là, parce que c'était énorme. Et je pense qu'il a dû compromettre un certain nombre de gens, et que s'il y avait procès Duvalier, il faudrait amener des gens, y compris des gens qui ont été très haut placés, et donc on a préféré étouffer. On a dit qu'on a trouvé toutes sortes de raisons pour empêcher ce procès.
Donc vous êtes toujours impliqué sur
le terrain. Il est toujours en France, quelque part.
Du militantisme et aussi de la création artistique. Vos peintures, Gérald Bloncourt, sont exposées au Musée national d'art haïtien. Qu'est-ce que vous diriez de cette peinture ? C'est une peinture volontairement liée aux revendications de la Révolution,
non,
toujours ou pas ?
Non, j'en ai plus. Ah oui, enfin, j'en ai une qui est relativement connue. Enfin, je vais être immodeste, et qui représente les cailles des maisons, mais des maisons à la limite des bidonvilles. Et déjà à cette époque, j'essayais de transmettre ma vision de ce qui pour moi n'était pas juste, mais qui demeurait beau, parce que c'était la maison quand même des hommes, la maison des êtres humains. Et ça me fait revenir une idée dans la tête. Il y a eu un meeting à Paris avec des Haïtiens, et dans la salle au premier rang, les premiers rangs c'était des femmes, et moi dans ma fougue habituelle, je parle pour dire l'humanité, j'ai dit l'homme. Et d'un seul coup, j'ai vu toutes ces femmes qui étaient là, et j'ai dit avec un grand F.
Comment vivre en dictature ? Quels sont les modes d'emploi ?
Alors là, vous me regardez avec... Oh, il y a une petite sieste dans les yeux là qui passe très très rapidement, Gérald Bloncourt, très en forme. Mais vous pourriez me répondre à cette question, peut-être en nous lisant un extrait de votre poème intitulé « Je me souviens, vous chaussez vos lunettes ». Et je pense, oui.
Ah, je me souviens, il faudrait même que je vous dise un tout petit mot. C'est que quand on m'avait demandé un article sur la mémoire, et j'ai commencé à écrire ce poème, c'est devenu un poème. Et j'ai pensé tout de suite à Georges Perec, que j'ai déjà rencontré au Moulin d'Andé. Et je me suis dit, je suis en train de plager Perec, mais je me suis dit, non, c'est trop beau, il faut quand même que je continue. Alors je vous lis les premières lignes. Je me souviens des purges administrées tous les samedis matins pour guérir des vers, du paludisme et du sang gâté. Je me rappelle la tête coupée, fichée sur une pique qu'une foule en colère a baladée des heures durant dans les rues de Jacmel. Je me souviens l'avoir vu passer, montant et descendant dans le roulis de la manifestation au ras de mon balcon. Je me souviens que le ciel était bleu féroce et que le soleil cernait de lumière le macabre visage. Je me souviens que j'avais 7 ans.
C'est un poème où le poète que vous êtes aujourd'hui donne la main finalement au petit garçon qui a connu la brutalité policière très tôt.
Oui, mais je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vécu toujours dans la violence. Je me rappelle de Diogène, le conteur. Chez nous, c'est des traditions. Les types, ils viennent, ils disent « cric, crac ». Alors, on répond « cric, crac ». Et il donne une petite devinette en créole. Il dit « Captain en bacabone, ça y est ». Alors, ça veut dire, je vous traduis, le capitaine sous le lit, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde de répondre, pot de chambre. Alors, donc, l'histoire commence et continue, mais vous savez, il y a toujours des devinettes comme ça, c'est l'une d'elles que je me souviens. Et Diogène, tous les après-midi, passait devant la maison, on était à Jacmel, et nous racontait une histoire, c'est l'histoire de Herzuli, une histoire comme l'histoire des mille et une nuits qui n'en finissent jamais. Et ce jour-là, alors il y avait une grande barrière et je devais boire mon verre de lait. Moi, j'étais privilégié, j'avais droit à un verre de lait. Maman Dédé me faisait boire mon verre de lait. Diogène est arrivé et j'ai couru. Les autres petits gamins qui habitaient les bidonvilles d'à côté étaient autour de Diogène qui racontait son histoire. Et à ce moment-là, est arrivé un camion de la garde. Et il fallait nettoyer la ville de tous les mendiants parce que le lendemain, arrivait un bateau de touristes yankees. Et donc, tout ce qui était pied à terre, on appelle ça des pieds à terre, était attrapé, matraqué, battu, emmené à des kilomètres de la ville. Et ce jour-là, ils ont matraqué. J'entends encore les coups de coco macaque, de matraque sur le crâne de Diogène. Et il y avait un grand crochet de fer pour ouvrir cette barrière. J'ai voulu l'ouvrir pour permettre à Diogène de rentrer. Mais j'étais gamin, moi, j'avais 7 ans. Hein. J'ai pas pu défaire le crochet. Et je l'ai vu emmener comme ça. Il criait. Et Diogène n'a jamais plus reparu. Et je me souviens, pour reprendre mon poème, c'est d'ailleurs dans mon poème qu'un voisin a dit qu'il était mort.
Vous avez écrit des poèmes sur cette violence. Est-ce que vous avez réussi à faire des photographies sur cette thématique?
Ben, c'est le seul pays du monde où j'ai jamais pu faire de photos.
Georges Moustaki arrive à point nommé. Et je remarque, Gérald Bloncourt, que vous êtes très très attaché à la chanson française. Hein. Moustaki, avec Sans la nommer, c'est une chanson emblématique de ce que vous avez toujours éprouvé, cet amour pour la liberté.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Qu'est-ce que vous nous diriez? Est-ce que vous le... Ah, lui aussi.
Bien sûr, j'ai les photographies.
Vous avez rencontré
aussi
le monde entier. Hein. Oh. Georges Moustaki dans le programme En sol majeur de Gérald Bloncourt.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Sans la nommer, enfin, faut pas pousser quand même. Georges Moustaki, en sol majeur, dans votre programme Gérald Bloncourt. Gérald qui vit donc en France depuis 1947 et qui ne pense qu'à ça, aux poissons séchés, à morne bourrette et aux jasmins nocturnes de son île natale, Haïti.
Si je vous demande de me réciter un poème, lequel vous vient à l'esprit ?
Ah ben, je hurle à la lutte.
Révolutionnaire jusqu'au bout.
Je hurle à la lutte au mon pays, ma terre natale, saline, cicatrice, bidonville, crucifiée de l'aubonuit fétide, chiens efflanqués, affamés, immondices désaffectés, tôtards dans l'obscurité mensongère. Cogne ma mémoire sur les tôles ondulées aux vibrations de rage, bave ma rage de gangrène infectée, odeur puante de caniveaux de mort prématurée, d'enfants vides au regard remords, lancinant des accusations d'un monde qui s'accouple avec l'absurde.
Voilà, c'est le poème qui vous est venu à l'esprit.
C'est enfin, un petit bout.
Un tout petit bout, bah oui, je sais bien, c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà fait de la poésie en créole, Gérald Bloncourt ?
Ah, ça m'est arrivé, mais bon, c'est quand je suis dans le pays.
Ah, il faut que vous soyez immergé
dans le
décor.
Oui, bien sûr, et c'est plutôt des choses improvisées. Parce que l'écriture, vous savez, c'est notre langue. Tous les écrivains haïtiens, tous les écrivains connus et haïtiens, à part quelques rares exceptions, on a tous écrit en français.
Quel lien vous entretenez avec le créole aujourd'hui ?
Ah ben, je rencontre en permanence des tas de copains haïtiens. On parle des concevants, c'est un bonheur tout de suite. Il y a le petit ponche et on parle créole.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre maison ?
Oh, ma maison, moi je suis contre les meubles. On a une maison à la Babinière, une petite maison de campagne qui était une ruine. Je suis maçon, plombier, électricien, bien sûr. J'ai fait mes meubles, enfin mes meubles, c'est-à-dire ma table avec les tiroirs, la table où on se réunit pour manger, les armoires pour ranger la vaisselle, des choses comme ça. Et à la maison, mais j'ai une petite armoire que j'ai faite de mes mains pour Isabelle, ma compagne. Et puis, on a acheté des trucs, je crois, chez Ikea pour mettre les trucs les plus simples possibles.
Ouais. Et mais ce n'est pas les trucs d'Ikea qui m'intéressent, c'est les photos, les tableaux peut-être.
Ah, les tableaux. Alors les tableaux, on m'a fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de photos chez moi. Il y a surtout des peintures, mais les deux vont ensemble.
Et quelle peinture alors vous avez accroché?
Dans notre chambre, j'ai cette... Attendez, où est-ce
que... Ah non, mais là, on est dans le noir, vous êtes obligé de prendre les mots et vos pinceaux pour nous décrire tout ça.
Je prends les mots, mais quand même avec un exemple. Et il y a ce qui s'appelle l'exil, c'est fait d'un seul trait et une série de têtes qui évoquent et moi et les autres et tous ceux qui avons dû partir, quitter notre pays. Et elle a eu un certain succès puisque Beaubourg l'a pris pour faire le fond d'une scène où il y a eu la semaine des écrivains exilés. Ils l'ont agrandi sur 7 mètres. Et quand je suis arrivé, j'étais avec Mimi Barthélémy, une chanteuse de chez nous.
Une conteuse, oui.
Elle me donnait le bras et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça faisait 7 mètres. Elle m'a dit, mais c'est toi Gérald, j'avais pas reconnu que c'était moi tellement c'était grand. J'étais sidéré de voir mon dessin tellement agrandi. Et oui, j'ai quelques peintures. Il y a des peintures de Morgane, ma fille.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir multiplié un regard sur cette,
histoire originelle avec Haïti, à savoir votre expulsion, un regard morbide sur votre histoire.
Oh, je ne pense
pas. J'ai coupé la gorge du temps, c'est le titre de cette peinture qui est accrochée chez vous.
Eh bien, bien sûr, parce que quand j'ai rencontré Isabelle dans le métro, ça va faire 20 ans, elle a fait de moi un jeune papa, c'est la mère de Morgane, et j'ai écrit un poème qui s'appelle Isabelle de Paris, et je crois que j'ai commencé un peu comme ça, j'ai coupé la gorge au temps, parce que j'étais quand même beaucoup plus âgé qu'elle, alors il fallait bien que je m'arrête. D'ailleurs, je m'arrête et je vous laisse tous me rejoindre. Moi, je ne veux plus aller plus loin, je vous attends.
Sympa, il veut tout partager.
C'est pour ça que j'ai coupé la gorge autant. C'est une volonté de tenir.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Gérald Bloncourt. Je signale que l'on peut voir votre travail sur votre site car vous êtes très branché Internet. Vous nous dépassez tous. Hein. Vous nous rappelez l'adresse de votre site ?
Oh là, on fait Bloncourt, ça suffit.
Bloncourt, très bien. Et puis on va se quitter avec les larmes parce que quand
surtout
on est.
Surtout le blog, il faut voir le blog.
Ah,
il
faut voir le blog aussi. Oui. Ah oui, très important le blog.
On
le blog d'un seul majeur, Bloncourt, vous renverra sur le blog de Bloncourt.
Ça suffit et on trouve.
Ok. On va se quitter avec les larmes puisqu'il paraît que quand on écoute Mouloudji, ça se termine toujours un petit peu comme ça. Mouloudji qui donne une version du Déserteur un petit peu plus soft, en tout cas moins agressive que celle de Boris Vian, le créateur de cette chanson. Et vous teniez à cette version du Déserteur.
Oui, parce que c'est pour moi, ça fait partie de l'ensemble des idées auxquelles j'ai cru, auxquelles je crois encore profondément. Il faut déserter la violence, il faut déserter cette façon dont on veut nous faire vivre. Il faut un monde nouveau. Un monde meilleur. Et pour moi, le déserteur, c'est un acte courageux contre toutes les censures, contre toutes les menaces et qui appelle à la désobéissance.
Donc la révolution continue.
La révolution, bien sûr.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grands, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers. On a volé.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris. C'était une rediffusion concoctée avec les doigts de fée de Caroline Filliette, Sophia Bédard, Thomas Ferrière, Laura Pinto et Yasmine Chouaki. Et on vous retrouve demain avec le réalisateur palestinien Yad Alastal. À demain. Tous les